Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021, table ronde.
Alors bienvenue à vous tous qui êtes venus assister à cette table ronde. Vous venez pour réfléchir à la façon dont les prêtres et les laïcs peuvent travailler ensemble pour la mission. Vous souhaitez sans doute être encouragés dans cette voie, vous avez peut-être besoin d'être mieux équipés pour que cette coopération soit plus sereine ou plus fructueuse. Donc vous êtes au bon endroit et je remercie nos trois intervenants que je vais maintenant vous présenter et qui vont nous permettre d'aborder toutes ces questions et nous donner surtout encore plus envie d'annoncer le Christ dans le monde. Alors Sabine Bergère, vous venez du diocèse de Tarbes-Lourdes où en plus de votre vie de mère de famille, vous êtes coordinatrice diocésaine des missions paroissiales depuis 2019. Vous nous partagerez aussi votre expérience de paroissienne, puisque vous faites partie de l'EAP de la paroisse de Tarbes Nord, animée par des frères franciscains. Et c'est là, je crois, que l'aventure missionnaire a commencé pour vous.
Tout à fait. Tout à fait. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous.
Père Guillaume Souris-Lavergne, vous avez été ordonné prêtre il y a 15 ans. Et vous êtes curé de campagne à la mission catholique de Figeac. Alors s'il y a dans cette salle des gens qui ne sont jamais allés à Figeac, il se peut qu'ils vous aient tout de même aperçu, ici ou là, sur les réseaux sociaux. Vous êtes connu notamment en tant que parachutiste amateur, puisque vous avez effectué un saut très médiatisé il y a quelques années pour rénover une abbaye. Vous nous direz peut-être si vous avez l'impression de refaire ce grand saut dans le vide à chaque fois que vous lancez une initiative missionnaire dans votre paroisse. Lors des baseilles, merci de remplacer votre mari en dernière minute. Avec votre mari, donc Arnaud et vos enfants, vous habitez depuis un an à la paroisse étudiante de Toulouse, où vous êtes le foyer responsable de la fraternité Saint-Pierre. Vous êtes donc en charge de l'animation de la pastorale étudiante avec d'autres prêtres et d'autres laïcs. Vous aimez dire, je sais, que votre rôle consiste surtout à faire des courses pour les dîners de la fraternité, mais on verra que votre mission dépasse largement le périmètre des supermarchés toulousains. Voilà, donc depuis quelques dizaines d'années dans l'Église, tout le monde s'accorde à dire que les prêtres et les laïcs sont co-responsables de la mission, ce qui ne signifie pas que cette collaboration soit toujours fluide, des ajustements sont forcément nécessaires pour que chacun trouve sa place, pour que chacun grandisse en sainteté et porte du fruit. Donc je vous propose d'abord d'essayer de comprendre en fait quelles sont les grâces particulières des prêtres et des laïcs qui apportent quoi dans cette coopération. Donc pour commencer, je m'adresse à vous, Père Guillaume, je vais vous provoquer très gentiment. Oui. Vous avez un micro, oui. Pour préparer cette table ronde, j'ai eu un mal fou à vous avoir au téléphone, vous êtes surbooké. Est-ce que ce n'est pas la première raison pour laquelle il faut que des laïcs partent en mission? En fait, il faut quelqu'un pour répondre au téléphone.
Je déteste le téléphone. C'est la raison pour laquelle vous avez des difficultés à m'avoir. Je préfère les SMS. Je pense qu'il y a une bonne et une mauvaise raison de travailler aujourd'hui à ce qu'il y ait une collaboration beaucoup plus intense, réelle et fructueuse qui s'établissent entre les prêtres et les fidèles. La mauvaise raison, c'est la raison du temps où nous sommes aujourd'hui qui fait que nous, les prêtres, on est tellement peu, la tâche est tellement grande que finalement, on comprend bien que pour appuyer sur le bouton de la photocopieuse, on a besoin de quelqu'un d'autre ou pour répondre au téléphone. Ça, c'est une mauvaise raison. C'est-à-dire, c'est une raison de circonstance qui est une réalité, par contre, là, pour le coup, quand vous avez... Il y a certains de mes confrères, c'est hallucinant, ils vous disent, un peu dépité, j'ai 100 paroisses sous ma responsabilité. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que même si le prêtre venait trois fois s'il voulait passer partout, il ne pourrait passer que trois fois dans chacun des clochers par an quasiment. Donc ça, c'est une mauvaise raison. Ce n'est pas le sujet. La vraie raison, la raison la plus fondamentale, me semble-t-il, la bonne raison, en fait, pour laquelle nous avons collaborer, parce que c'est dans le plan de Dieu, en fait. Cette raison, c'est que la grande force du chrétien, c'est d'abord sa faiblesse, ça c'est sympa de la rappeler. Donc on n'est pas, on n'est pas là pour dire qu'on est beau, fort, grand et intelligent, parce que c'est tout le contraire que l'histoire nous montre. Mais nous sommes baptisés, c'est-à-dire que nous sommes le temple de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui introduit dans la vérité tout entière. Et en fait, il y a quelque chose qu'il nous faut nécessairement redécouvrir, je pense, et je suis convaincu que le Concile Vatican II en fait a vraiment permis cette remise en lumière, c'est que ce baptême, c'est pas rien. Alors nous, on en fait une petite cérémonie, etc., un petit peu culturelle, mais le baptême, c'est juste fantastique. Être plongé en Dieu de manière constante, puisque l'Esprit Saint habite notre cœur. Et en fait, cette inhabitation de l'Esprit Saint en nous donne à chaque chrétien, et je ne dis pas chaque consacré, enfin, plus exactement, on est tous des consacrés en réalité, par le baptême, eh bien, donne une autorité. Et je crois que là où il va falloir qu'on vraiment on rafraîchisse le logiciel, c'est qu'en réalité, le baptême donne une autorité à chacun, c'est l'autorité du baptisé qui est autorisée. Rappelez-vous, hein, quand vous baptisez un petit enfant, je parle pour vous, mesdames, ça vous est arrivé, toutes, là, autour de moi, eh bien, le prêtre dit dans le rituel, et tu fais partie, tu es membre du peuple de Dieu, tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. On dit ça à un bébé, qui est, bon, même à un adulte, hein, mais qui vient d'être baptisé. Donc, cette autorité de prêtre, de prophète et de roi, elle confère réellement dans le monde, elle nous habilite à être enfants de lumière, à être la lumière qui brille dans les ténèbres. Et du coup, question que je peux poser à tout le monde, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et je pense que j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, mais la bonne raison, en fait, aujourd'hui, de cette collaboration, c'est de comprendre que on a cette autorité. Et parmi ceux qui ont reçu l'autorité du Christ, en étant prêtre, prophète et roi, eh bien, il y a ceux qui, et c'est très mystérieux parce que je veux dire, encore hier je le disais à un confrère, quand on est prêtre, franchement, on ne comprend pas d'abord le choix, on ne comprend pas pourquoi. C'est Dieu qui choisit, il sait pourquoi lui, mais nous on n'en sait rien. Et encore aujourd'hui, après 15 ans de sacerdoce, j'en sais toujours rien, je vous promets. Mais par contre, ce choix de Dieu donne une mission, et cette mission, en fait, c'est d'être des pasteurs, donc de conduire. Et donc, en fait, et je termine là, de discerner, il donne cette mission de discerner au travers de tous ceux qui ont l'autorité, eh bien de discerner ce qu'il faut pour conduire le peuple de Dieu. Voilà. On a une responsabilité de conduire un peuple, non pas uniquement d'enfants ou de personnes qui seraient vraiment à perfectionner, parce qu'il y a... Non, des personnes qui ont exactement la même chose que moi, qui ont une autorité extraordinaire parce qu'ils sont baptisés, et le prêtre reçoit donc cette mission d'être pasteur au travers des fidèles.
Merci, effectivement, on reviendra sur cette question. Sabine, vous avez été, vous, embarquée dans l'aventure missionnaire par les prêtres franciscains de votre paroisse, qui a lancé des missions de porte à porte, en envoyant à chaque fois donc, un prêtre franciscain et un laïc à la rencontre des habitants du quartier. Donc, comment ça se passe entre le prêtre et le paroissien, et qui fait quoi et qui rassure qui, en fait?
Alors en fait, effectivement, on a la chance donc, d'être dans une paroisse qui est animée par les franciscains, où il y a une communauté. Donc il y a trois prêtres et un frère qui sont là. Et comme la communauté de Lourdes est à proximité, on est appuyé aussi dans nos temps de mission par les frères franciscains de Lourdes, pour qu'on fasse un groupe un peu plus consistant. Donc c'est vrai que c'est du grand luxe, puisqu'on a plusieurs prêtres et frères avec nous. Et donc l'idée, c'était de partir. C'est une paroisse qui est sur trois quartiers de Tarbes, trois quartiers populaires, périphérie de la ville. Et l'idée, c'était de partir effectivement à la rencontre des habitants en mission porte à porte. Et on a monté ça sur deux quartiers, déjà sur deux années, un quartier par année, sur une semaine où on se réunit tous pour partir en mission. Et on part donc systématiquement un laïc ou une laïque et un prêtre. Et cette complémentarité a été très intéressante pour nos missions, parce qu'en fait, quand on part en mission porte à porte, on ne va pas nous évangéliser, on ne va pas convaincre, on va rencontrer, rendre possible l'action de l'Esprit, rendre possible la rencontre avec Jésus. Mais nous, on est là pour la rencontre humaine. Et en fait, en fonction des personnes que l'on rencontre, le fait d'être à deux permet de rencontrer les personnes différemment. Quelquefois, la rencontre, c'est « bonjour, vous allez bien dans le jardin ?» Et avant de pouvoir commencer à parler de quelque chose, on va parler du cerisier en fleurs, on va parler de la petite allée qui est bien, bien arrangée. Et puis quand la discussion va pouvoir s'apaiser, on va pouvoir entrer en contact un peu différemment, parler de la paroisse, parler de pourquoi on est là, et prier. Et en fait, dans cette relation, chacun a sa place. C'est plus facile pour certains de parler. Moi, je suis très bonne pour le cerisier en fleurs. Ça va désamorcer, en fait, rendre la première relation possible, la discussion possible. C'est facile. Et puis, c'est vrai que dans certains quartiers, quand on rentre dans des immeubles, on est devant. En fait, dans les maisons, c'est facile parce qu'il y a le grillage et on est de l'autre côté. Bonjour, madame. Il y a un sentiment de protection par le portail. Mais quand on rentre dans un immeuble, on passe la porte et après, on est toc-toc, ils ouvrent la porte, on est directement chez eux. Et c'est vrai que nos prêtres franciscains en robe de bure, grand, imposant, il peut y avoir un recul, une dame laïque à côté, même si elle est grande, on se dit ouf, voilà. Et ça équilibre en fait cette relation, et ce qui fait que notre rencontre avec les personnes, elle est notre premier regard, les cinq minutes où on fait connaissance, où on se salue, ils sont facilités par cette complémentarité. Et puis après, en fonction de la rencontre, je dirais presque l'un ou l'autre prend le relais en fonction des questions. Je pense à un jeune homme qui nous a fait rentrer. Une demi-minute après, il a dit « Mais est-ce que c'est vrai, l'enfer existe-t-il vraiment ?» Bon, là, j'étais très contente d'être avec frère François pour qu'il prenne la parole à ce moment-là, parce que tout d'un coup, c'était un peu abrupt, quoi.
Merci beaucoup. Et Laure, dans la Fraternité Saint-Pierre, comment est-ce que les prêtres et les laïcs travaillent ensemble ? Chez vous, la particularité, c'est que vous menez une vie presque communautaire, en fait. Donc, comment ça marche ? Quelle est la place de chacun ?
Alors, très largement, dans la paroisse étudiante, il y a des laïcs, des familles en particulier, trois familles qui habitent avec des étudiants, donc des étudiants, des prêtres, des religieux qui accompagnent ces étudiants. Donc voilà, un mélange de religieux et de laïcs, un peu de tous les âges, avec un pasteur, donc notre curé, l'abbé Damien, qui nous guide. Donc nous, plus particulièrement avec mon mari Arnaud, on habite à la paroisse Saint-Pierre des Chartreux, donc avec presque la même adresse postale que notre curé. Donc on a cette particularité de vivre la mission vraiment chez nous, les uns et les autres. Donc on habite avec 8 étudiants, chacun d'entre nous, les étudiants ont leur cuisine, l'abbé a sa cuisine et nous aussi, donc on a quand même une certaine indépendance, mais on a un rythme de vie communautaire par la prière et par un chapitre qu'on fait toutes les semaines pour faire le bilan et voir un peu où chacun en est. Voilà. Et chacun en fait à peu près à notre place, on est là pour porter cette paroisse et aider les étudiants à se déployer dans la paroisse. Et à la faire vivre en fait. Voilà. Donc on vit du coup, on se croise sur le trottoir de manière spontanée, on joue au ping-pong dans la cour avec l'abbé Damien. En fait, c'est des rencontres très faciles et très simples qui font notre quotidien, au-delà même de cette mission de porter la paroisse et de la faire vivre.
Une vie un peu familiale en fait, hein,
exactement.
Avec le père. Ouais. Très bien. Et donc, Père Guillaume, cette complémentarité entre les prêtres et les laïcs, vous dites qu'elle est le signe du double mystère de l'Église, qui est à la fois hiérarchique et charismatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça plus en détail ?
Alors, tout à fait. Sauf que c'est un peu technique, et parce que c'est un peu technique, j'ai pris quelques notes. Alors, pour introduire un petit peu mon propos, qui est une conviction, hein, c'est une table ronde, donc je suis pas en train de vous... Je vous parle de mes convictions de pasteur. Hein. Je crois que le temps que nous vivons nécessite de faire le constat d'une défaite réelle, visible, de l'efficacité, de l'efficience de l'Église, dans ce cas-là, de visible, dans la structure de l'Église. On est en train de perdre. Les paroisses s'effondrent, les effectifs fondent comme neige au soleil. Les confrères que je croise, je leur dis « Alors vous, en ce moment, est-ce que c'est pareil que nous ? Il n'y a plus d'enfants cathés, enfin très peu, etc. » Le constat semble unanime. Alors il y a peut-être des îlots de résistance, tant mieux. Mais on est en train de découvrir en fait que, et on est en train de le découvrir pas uniquement par la tête, quoi, on est en train de le découvrir maintenant par la réalité, que nous, nous constituons réellement un petit reste. Et ça, c'est la première des choses qu'il faut intégrer. Petit reste, c'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de l'Église, eh bien, ça nous renvoie aux origines de l'Église. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, qu'est-ce qui fait que... comment l'évangélisation a commencé ? Qu'est-ce qui a fait que l'Évangile s'est répandu comme une traînée de poudre de manière absolument hallucinante ? Est-ce que vous pensez que c'est la prédication de ces hommes et de ces femmes qui ont été saisis par le Christ ? Est-ce que la prédication suffisait ? La réponse, c'est saint Paul qui la donne, et même saint Pierre. En fait, c'est non. Saint Paul, il dit, écoutez, moi je suis venu parmi vous sans le prestige de la parole, etc. En gros, je ne savais pas m'y prendre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée parmi vous. Et il dit, hein, et qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu des miracles, il y a eu des signes extraordinaires, il y a eu des conversions, etc. Donc, en fait, pour introduire donc, ce propos, il faut se rappeler donc, de nos fondamentaux, hein, et puis des débuts. Qu'est-ce qui a permis au peuple de Dieu d'embrayer, si vous voulez, de prendre la bonne vitesse ? Eh bien, c'est qu'on a laissé faire, en fait, on a laissé s'exprimer la puissance de Dieu. On a laissé l'Esprit Saint agir de manière puissante, et il a produit des miracles, des prophéties, des paroles de connaissance, des guérisons, etc. etc. Et je suis convaincu que c'est exactement cette intuition primordiale que nous devons retrouver. La prédication, on l'a, et on l'a même par toutes les formes possibles, jusqu'aux médias. Mais par contre, être réceptacle de la puissance de l'Esprit-Saint et demander des miracles, des prophéties, etc., je vous garantis que ça, c'est plus du tout naturel dans le peuple de Dieu, on est d'accord. Est-ce que vous avez, de manière habituelle, votre prêtre et moi le premier, toujours en train de vous bassiner avec en disant demander des miracles, demander des paroles de connaissance, demander des prophéties. Et si quelqu'un ici a une prophétie qui n'en a jamais faite, aurez-vous le courage de vous lever et de dire il me semble que le Seigneur me dit que. Donc vous voyez, on est appelé à une conversion générale, me semble-t-il. Alors, ayant posé cela, eh bien, je vous invite juste à retourner, alors je vais le faire en lisant, hein. Dans le Concile Vatican II, je vous en ai parlé, donc la constitution dogmatique Lumen Gentium. Elle commence, donc chapitre 1er, et vous avez une petite incise. Cette église que le Fils introduit dans la vérité tout entière, il la bâtit et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Ah, et c'est là où c'est passionnant. D'où est-ce que les pères du Concile tirent cette assurance qu'il y a en fait une double dimension dans l'Église, la dimension hiérarchique et charismatique ? Eh bien, c'est saint Paul. Vous prenez la première épître aux Corinthiens au chapitre 12 et vous y trouvez un passage que vous connaissez bien, mais je vous invite à y être attentif maintenant parce qu'il est en train de dire deux choses. Il est en train donc de manifester qu'il y a la hiérarchie et le don charismatique dans l'Église, la voie charismatique, et que c'est la même Église, et que c'est un don de Dieu. Et donc, soit dit en passant, pour les plus revanchards, que la hiérarchie est un don de Dieu. Donc je laisse saint Paul parler maintenant, et je termine avec ça. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres. Les apôtres, c'est la voie hiérarchique. Et ensuite, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Donc, vous voyez, la collaboration, en fait, du mystère entre les fidèles et les pasteurs, eh bien, s'inscrit en fait dans la réalité, dans l'essence même de l'Église. L'Église, c'est ça. L'Église voulue par Dieu, c'est une dimension hiérarchique et charismatique. Et à mon avis, tout l'enjeu aujourd'hui, et c'est le thème de cette table ronde, eh bien, c'est de permettre enfin de comprendre qu'il faut peut-être changer de logiciel pour que les fidèles, mais aussi les pasteurs d'ailleurs, eh bien, demandent, exercent les dons charismatiques, comme saint Paul en fait en parle.
Je crois qu'il y a des ateliers sur les charismes, hein, tout à l'heure aussi. C'est prévu dans ce congrès. Sabine, qu'est-ce que vous pensez de cette idée que vient de développer le père Guillaume? Comment ça se manifeste dans le diocèse? Je sais qu'il y a une grande importance pour vous de la formation des fidèles. Est-ce que vous les aidez comme ça à se former?
Oui, alors en fait, c'est exactement la suite de ça. C'est-à-dire exactement ça. Quand on dit prêtre et laïc, quelle coopération? En fait, c'est aussi quel laïc? C'est-à-dire que c'est sûr que si on se rencontre, on se met autour d'une table, on se dit bonjour pour la première fois et on dit maintenant, bon alors qui fait quoi? C'est difficile de travailler ensemble. Donc la question de prêtre et laïc, il y a une formation qui s'appelle prêtre selon mon cœur. Il n'y a pas de formation laïque selon mon cœur, mais je dirais presque, il y a quand même un peu besoin de ça. C'est-à-dire c'est le baptême nous rend prêtre, prophète et roi, mais à l'âge adulte, si on veut être en co-responsabilité, parce qu'en fait la question c'est ça, c'est pas tellement la collaboration ni la coopération, parce que ça, pour faire les fleurs, le ménage, on arrive à coopérer et collaborer, mais il y a un moment où ce qu'on partage, c'est la co-responsabilité, notamment dans les paroisses. Et cette co-responsabilité, bien sûr, avec chacun son ministère, chacun ses charismes, elle se construit. Et elle se construit à partir de chacun, mais à partir de chacun qui s'est rapproché de l'autre. Et il faut un certain temps pour ça. Et alors, d'où c'est ce qui s'est passé dans notre paroisse. Il y a 4 ans, on a un nouveau prêtre qui est devenu curé, un jeune franciscain roumain, et voilà, qui a pris la paroisse. Et il a convoqué une bande de bras fidèles pour son OAP. On était des gens sympas, des gens bien, on se tenait bien le dimanche à la messe. Bien. Et puis, il nous a dit, première réunion, il nous a dit, bon, voilà, ça ne va pas du tout, on va changer. Alors, je vous le montre, vous ne verrez rien, mais c'est normal. Il nous a donné ça. Et dit, voilà notre projet pastoral. Alors, vous ne voyez pas, mais je vous assure, quand nous, on l'a eu de près, on n'a pas tout compris non plus. C'était marqué, en gros, devenir des disciples missionnaires, mais après, il y a des flèches dans tous les sens, et on n'était pas prêts. Et en fait, on a avancé dans notre AP en essayant de le suivre, parce qu'au départ, c'était un peu ça, essayer de comprendre comment on allait avancer vers le fait de pouvoir assumer notre place prêtre, prophète et roi, notre place de baptisé dans la paroisse. Alors on l'a pas vu venir, parce qu'en fait on s'est pas rendu compte, et quand on a préparé, ça m'était pas venu à l'idée, on l'a pas vu venir parce que petit à petit, alors il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en place, il y a eu de la formation dans notre paroisse, il y a une école de vie dans Saint-Esprit qui est mise en place depuis 3 ans, à laquelle on participe tous plus ou moins, alors de l'AP, de la paroisse, et puis des gens de l'extérieur. On a la chance d'avoir des soirées de louanges tous les mois. On a de la chance d'avoir donc mis en place des missions qui nous ont, au départ, les missions, on est parti apprendre, je dirais presque. On est parti en sachant pas où on allait, on est parti apprendre. Et à force d'apprendre ensemble, aujourd'hui dans notre petite paroisse de Tarbes Nord, finalement on est 22 présents congrès mission. Et voilà, et le nombre est important. Et donc tout le monde petit à petit, par la formation, par la prière, par la participation à l'école de vie, la louange ensemble, on s'est un peu mis au niveau. On a fait connaissance, bien sûr, on a partagé des idées, bien sûr, mais on s'est un peu assorti. Alors, c'est pas fini, on n'est pas encore au point, la co-responsabilité n'est pas encore tout à fait... Enfin, on n'en est pas là encore. Mais on a tous avancé et on est en train de se retrouver, je dirais, à un niveau qui se ressemble, vers lequel on va commencer à pouvoir faire quelque chose ensemble. Parce qu'on a confiance, parce qu'on se connaît, parce qu'on partage des choses intellectuelles ensemble. Quand on se parle, on se comprend. Et c'est pas forcément évident qu'entre laïcs et prêtres, sans travailler ensemble, on se comprenne.
Très bien. Et c'est vrai que même si votre pasteur a fait un PowerPoint indigeste, il a quand même rendu le service de l'autorité, en fait, hein, de celui qui marche devant. Et c'est, je crois que dans la paroisse étudiante, vous êtes très content que le père Damien rende ce service. Vous pouvez nous en parler un peu, Laure?
Alors nous, du coup, on a vécu dans la paroisse étudiante que dans ce contexte aussi un peu particulier là, de crise sanitaire, avec des couvre-feux, des confinements, voilà, donc des situations un peu nouvelles à vivre dans une paroisse. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, y avait des décisions à prendre qui étaient fortes et qui pouvaient éventuellement nous amener à surfer un peu sur ce qui était autorisé. Et c'est vrai que nous, en tant que laïcs, on se sentait impuissants à prendre la décision, par exemple, d'accueillir les SDF le 24 décembre pour la veillée de Noël et leur servir à manger alors qu'on était tous masqués, qu'on était censés avoir des gants, ne pas s'approcher de plus de 2 mètres, etc. Donc cette décision pour nous, les laïcs, en fait, c'était difficile de la prendre. Et c'est là, par exemple, que notre pasteur, il a tout son rôle, en fait. Enfin, heureusement qu'il a de l'audace, que tous nos pasteurs ont de l'audace et qu'ils nous donnent l'impulsion, en fait, pour les suivre. Voilà, nous, on a une vision qui est assez restreinte, finalement. Et puis, en plus, en tant que laïc, peut-être aussi, on vit une vie de famille qui est un peu dans la routine, où on aime être sur des bases solides. Et puis, nos pasteurs, ils viennent nous bousculer et nous entraîner dans leur vision pastorale. Donc nous, c'est notre vision pastorale pour la paroisse étudiante qu'on suit avec l'abbé Damien qui nous guide, croissance, fraternité et alternative. Donc on est embarqué là-dedans et dans chaque action, le père Damien nous invite à mettre ces trois principes en action. Et c'est même en allant faire les courses là, pour l'apéritif d'hier soir.
On parle des courses.
Et ben voilà, mettre tout ce sens de la vision pastorale derrière. Croissance, fraternité et alternative.
Ouais, les prêtres ont déjà un pied dans le ciel. Et juste, Sabine, votre vision plutôt diocésaine, en fait, on parle de super prêtres qui sont à fond, qui marchent devant, etc. C'est pas forcément la réalité de toutes les paroisses. On peut avoir, je pense, par exemple, à des prêtres Fidei Donum qui sont là pour 2 ans, qui partagent ni la culture, ni peut-être la vision, etc.
Alors, oui, la question, c'est des super prêtres quand même, c'est pas la question. La question, c'est effectivement comment la rencontre, justement, le travail avec les laïcs peut se faire quand à la fois le prêtre, qui arrive quelquefois effectivement pour quelques années en n'étant pas forcément été accueilli en France correctement et préparé à rencontrer ses équipes, et des villages ruraux qui ne sont pas du tout prêts non plus, à qui ils se souviennent encore du père d'il y a 30 ans, qui était vraiment fantastique, qui a marié, qui a baptisé, et qu'entre-temps, il y a eu des passages de prêtres, mais ils sont tous passés, parce que c'est celui de là qu'on se souvient. Bon, celui qui arrive, il a quelquefois quand même une difficulté à rentrer en contact, à être accueilli correctement, à rentrer vraiment en relation. Donc il y a vraiment un travail d'accompagnement, d'accompagnement à faire, je pense, par ceux qui peuvent le faire, par les diocèses, par les autres AP, par les personnes, de les aider à rentrer en contact et à pouvoir construire quelque chose avec les paroisses. C'est un vrai défi quand même dans nos espaces ruraux. Donc voilà. Donc c'est un temps de rencontre qui va commencer toute chose. C'est toujours un temps de rencontre, de faire connaissance et d'apprendre à se faire confiance d'un certain côté. Et puis après, on avance, oui.
Et Père Guillaume, pour vous, ce rôle de pasteur dans votre mission catholique, ça se passe comment ? D'être toujours celui qui marche devant, qui prend les décisions pas forcément simples ?
Les décisions pas forcément simples. Ça, je pense que vous touchez quelque chose qui est crucial. C'est que, encore une fois, je vous dis, je ne parle pas au nom du pape, je parle au nom de mon expérience de curé de paroisse que je reçois de mon évêque. Je suis convaincu qu'aujourd'hui les temps sont on ne peut pas se permettre de rassurer les fidèles. Voilà. Si on veut rassurer les fidèles, si vous attendez de votre paroisse qu'elle vous rassure, alors qu'il est probable que la plupart des paroisses sont encore sur un modèle qui me semble obsolète, c'est-à-dire qui ne rend pas justement, qui ne permet pas ce que je vous ai dit, finalement ce déploiement de la grâce baptismale, parce qu'on est, en fait, on est très dépendant de notre histoire, ne nous mentons pas, on est dépendant de notre culture, de notre histoire, et on a des centaines d'années derrière nous qui forgent un modèle. Et moi, je crois que c'est cette culture en fait qu'il faut modifier, c'est le modèle qu'il faut modifier. Et donc, quand vous parlez de choses douloureuses, c'est certain que je ne vous dirai pas que je suis un prêtre qui n'a jamais fait mal à mes paroissiens, c'est pas vrai. Je ne suis pas un prêtre qui a sécurisé mes paroissiens, c'est pas vrai. Mais dans mon rôle de pasteur, je crois qu'il est plus facile, enfin, il est plus fructueux à un moment de savoir opérer un malade, quitte à ce qu'à un moment il est mal, mais pour vivre sa résurrection, pour viser sa résurrection. Et aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit possible de faire ça sans douleur. C'est-à-dire, le changement, en réalité, il est nécessaire. Et le changement, il déstabilise. Vous allez toujours avoir des personnes qui... Vous ne répondrez pas à leur attente. Et je crois qu'il faut faire le deuil de l'unanimité quand on est prêtre. Bon, de toute façon, personne ne croit à l'unanimité. D'ailleurs, c'est très, très vite, on s'aperçoit qu'on plaît, on ne plaît pas. Mais il faut apprendre, et aussi vous, fidèles, apprenez-nous à ne pas vivre à l'applaudimètre. C'est pour ça que la question de la vision, tout ce qu'on découvre au cours de ce congrès mission, c'est-à-dire, à un moment, il faut savoir où on va. Et c'est ça qui va donner, réellement, qui doit cristalliser les énergies, les dons des paroissiens. Et c'est pas chacun fait ce qu'il veut, parce que quand c'est comme ça, ça marche pas. C'est pas possible. Vous voyez, le don de pasteur, il est là pour ça. Il est là à la fois pour que les gens expriment tout le génie de leur personnalité. Alors génie, entendons-nous, il y a ce qui est de l'ordre purement des qualités humaines. Et ça, nous avons tous des qualités humaines. Et c'est le devoir impérieux de l'Église experte en humanité, de permettre à chacun vraiment d'exprimer la personne unique qu'il est. Et d'ailleurs, si vous vous contentez d'être dans l'ombre, dans le mystère de l'Église, et de ne pas jouer la partition qui est la vôtre, c'est-à-dire de ne pas exprimer la personne unique que vous êtes, clairement, vous manquez à l'Église. Et vous contribuez en fait à la défaite. Donc il faut vraiment... Donc ça, c'est purement humain. C'est les dons humains, les qualités reçues, la grâce qui fait que chacun ici est vraiment unique et différent. Et puis après, évidemment... Il y a le mystère de Dieu qui accorde à ceux qui demandent, ou quelquefois même à ceux qui ne demandent pas, mais la plupart du temps, il faut quand même demander, il faut être réceptif. Dieu attend de donner des grâces et de passer par vous. Des grâces qui ne sont pas celles du pasteur. Saint Paul ne dit pas, ce sont les apôtres qui prophétisent. Peut-être que les apôtres peuvent prophétiser, mais tous les baptisés qui sont au temple de l'Esprit-Saint peuvent prophétiser. J'aimerais vous rappeler, je termine par là, le petit passage qu'a cité Mgr Le Gall, je crois que c'était le... Je ne sais pas si vous étiez là, enfin, c'était le premier jour peut-être qu'avec les prêtres, non, je ne sais plus. Il a parlé d'un passage des Nombres, donc c'est au chapitre 11 du livre des Nombres. Vous avez Moïse a choisi 70 anciens, ils vont sortir du camp, ils vont aller dans la tente de la rencontre, et puis il va y avoir une effusion de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint va fondre sur eux, d'ailleurs le texte biblique dit... Mais ça n'a pas duré. Pour la plupart, ça n'a pas duré. Mais c'est très intéressant. Et puis, il y a deux pauvres gars parce que, je sais pas, ils avaient piscine, ils sont restés dans le camp ce jour-là. Et donc, ils n'étaient pas là où, au moment de l'effusion où tous les 70 recevaient l'Esprit-Saint. Ils n'étaient pas dans la célébration, quoi. Et ils ont reçu l'Esprit-Saint aussi. C'est Eldad et Medad. Et alors, il y a un faillot qui va voir... qui va voir Moïse et qui lui dit « Attends, c'est Josué, fils de Noun. » Alors, il est dénoncé dans la Bible, hein, on a son nom. Il va voir Moïse et il dit « Non, mais attends, c'est quoi là? Il faut les arrêter tout de suite, là, les gars, ils commencent à prophétiser. » Et c'est là où Moïse a ce cri extraordinaire. Mais surtout, ne les arrêtez pas. « Si tout mon peuple était un peuple de prophètes. » L'intention de Dieu, c'est pas de dire « Rassurez-vous, vos pasteurs, ils sont au-dessus de vous. Et puis vous, comme fidèles, vous êtes en dessous et puis vous avez juste... à fermer votre bec, etc. » Non, c'est « Si tout mon peuple était un peuple de prophètes. » Mais ce peuple de prophètes, il a besoin d'être gouverné, il a besoin d'être dirigé. Et la tâche du pasteur, c'est pas pour rien que Jésus a pris l'image du pasteur. Qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Le pasteur, il est là, il a sa houlette. C'est ça le truc de l'évêque, là, la crosse. C'est pour rappeler ça. Il y a une brebis qui s'égare, on va essayer d'aller la chercher, mais c'est pour quoi faire? C'est pour la garder dans le troupeau, et le troupeau, c'est le berger qui sait où il va, c'est le pasteur qui sait où il conduit son peuple. Et donc c'est une charge qui est quand même évidemment fort importante, parce qu'on ne vous conduit pas pour le congrès mission. Quand on est pasteur, on vous conduit pour le ciel. Et on conduit pour que vous deveniez des personnes capables d'entraîner le maximum de vos collègues, de vos confrères, de vos amis vers le ciel. Amen.
Sabine, allez-y.
Non, je voulais juste faire le lien. Effectivement, notre pasteur conduit, et la question de la vision est très importante, parce qu'en fait, la vision que le pasteur reçoit pour mener la paroisse, c'est cette vision qui est très importante d'être partagée effectivement avec les laïcs qui sont vraiment autour de lui, partager, travailler, je dirais même étudier un peu, on peut lire des textes ensemble, on peut prier ensemble sur certaines lectures, de manière à ce que les laïcs qui vont entrer en coopération ou en co-responsabilité soient vraiment en partage de vision. Ce qui permet après de travailler ensemble avec une certaine sécurité, parce qu'on sait tous où on va. quelle que soit la mission qui nous est confiée, on sait vers quel est le but. Ce qui est quelquefois difficile pour les laïcs, c'est quand cette vision elle est pas assez partagée. C'est-à-dire qu'on sait bien que le pasteur nous guide, mais si on n'a pas bien compris où on allait, on peut tout à fait partir de bonne foi vers des directions qui ne sont pas les bonnes. Parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. Donc en fait, il y a quand même un travail de partage, et je dirais spirituel, mais intellectuel aussi à un moment, de se dire ensemble, bon, où on va ensemble. Et il y a un travail d'élaboration, de discussion de cette vision, de formation des laïcs sur ça, sur le sens des choses et de là où on va ensemble. Et ça permet après d'être partie prenante complètement de la démarche, de dire je sais où on va, donc je peux avancer parce que je sais vers quel but. Et c'est peut-être ça qui change dans la coopération prêtre et laïque et dans les relations historiques et dans les paroisses. C'est peut-être ça qui va changer aussi, c'est comment on est plus associé dans ce travail de vision avec nos pasteurs. Ça, je pense effectivement, ça, c'est encore un peu nouveau.
Et Laure, est-ce que vous avez l'impression que votre curé vous permet de déployer votre génie au quotidien, comme disait le père Guillaume?
Tout à fait, oui. Déjà parce qu'effectivement, seul, c'est pas possible. Donc il est tout à fait conscient qu'il a besoin de son équipe d'aumôniers et de nous, sur place aussi, la famille et le couple. Ce qui est assez fort aussi, c'est que notre curé vient nous solliciter, vient solliciter notre aide de temps en temps aussi sur certains domaines où il ne se sent pas compétent et où il nous fait toute notre place. Moi, mon domaine de prédilection, par exemple, c'est les ressources humaines que j'enseigne. Et dernièrement, l'abbé Damien devait recruter un nouveau responsable de la communication. Donc c'était aussi le moment de nous dire, je ne sais pas comment on recrute, je ne sais pas comment on fait une fiche de poste, est-ce que vous pouvez me guider là-dessus pour qu'on y réfléchisse ensemble et que je fasse ce travail le mieux possible. De même que, du coup, la responsable de communication qui partait, comment lui dire au revoir et se séparer d'elle avec la meilleure... la meilleure reconnaissance possible, lui être reconnaissant pour tout ce qu'elle avait pu apporter. Et voilà, on sait que souvent les missions qui se terminent dans l'Église, ça peut se terminer de manière douloureuse. Donc je pense qu'aussi en tant que laïc, quand on est formé sur ces sujets, on peut apporter à nos pasteurs aussi.
Et vous, Père Guillaume, en tant que pasteur, quand vous marchez devant et que vous dites on y va les gars, est-ce que vous arrivez à dire parfois ça je sais pas faire, là il faut m'aider?
Merci de me rappeler à l'expérience douloureuse de hier matin où j'ai eu des paroissiens qui me sont tombés dessus comme la pluie parce que j'avais absolument rien organisé, ils n'étaient pas inscrits alors que... Bref. Oui, on est évidemment en prise en permanence, je pense, avec nos limites. C'est une évidence, quoi. C'est tellement évident. Mais là, encore une fois, c'est pas vraiment la raison pour laquelle il faut changer uniquement, parce que ça serait une raison. Il y aurait une cause. Du coup, le prêtre qui est super doué dans tous les domaines, il aurait besoin de personne. C'est pas vraiment ça l'idée. L'idée, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que il faut distinguer le plan naturel et évidemment qu'il y a des qualités. Il y a des dons qui sont dans le peuple des fidèles qui doivent être le trésor de l'Église. Le trésor de la mère appartient à l'enfant, disait Sainte Thérèse de Lisieux. Eh bien, le trésor des fidèles doit vraiment concourir au bien de l'Église. Et l'Église, attention, parce que quand on dit Église, on pense tous à des choses probablement différentes. Il y en a qui voient déjà le pape, les évêques, etc. L'Église, les pères de l'Église... avait cette magnifique description de l'Église. Il disait, qu'est-ce que c'est que l'Église ? L'Église, c'est l'intention de Dieu de sauver tous les hommes. Voilà. C'est comme ça, en fait, quand on parle de l'Église, vous voyez, on n'est pas en train de dire, bon, on a un problème avec l'hiérarchie, là, on voit bien que ce n'est pas ajusté. Ce n'est pas du tout ça, l'enjeu. L'enjeu, c'est la vie éternelle, c'est le salut. L'Église est l'intention de Dieu de sauver tous les hommes. Du coup, vous... et moi, puisque nous sommes membres du corps de l'Église, nous formons le corps de l'Église, comme nous dit saint Paul, eh bien, nous sommes responsables du salut. Nous sommes co-responsables, c'est le terme que vous avez employé. Le Seigneur nous donne la grâce de participer à l'œuvre de salut. Et son intention, et donc notre intention, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors, ça se vit avec des limites, ça se vit... franchement... Regardez l'Évangile. Est-ce que Jésus manifeste sa puissance? Est-ce que c'est par sa puissance qu'il va manifester, qu'il va répandre l'Évangile? Non, c'est par sa faiblesse. Et saint Paul lui-même le dira, lui qui honnêtement, quand il vous dit, ok, bah alors moi je vous préviens les gars, j'ai vécu deux fois, j'ai été lapidé, j'ai vécu quatre fois la flagellation, j'ai fait naufrage, j'ai été perdu en mer pendant trois jours. Bon, on sent qu'il y en a quand même sous la pédale. Et ben malgré tout, saint Paul a cet éclair de génie de dire, ben écoutez, en fait c'est dans ma faiblesse, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et ça, c'est une. Enfin, ça, on peut pas. Vous voyez, on peut pas faire croire qu'on est fort. Mais d'ailleurs, ce qu'on va se prendre dans la figure, il paraît dans quelques jours, nous le rappelle. On ne peut pas faire croire au monde qu'on est fort. Mais dans notre faiblesse, notre force, c'est pas nous. C'est le Seigneur. Et à partir du moment et dès lors qu'on imagine, qu'on instaure un rapport de force dans l'Église, ou qu'on se. Et je dis pas que j'en suis exempt. Hein, attention. Mais dès lors qu'on a, on introduit un rapport de force, on n'est déjà plus dans le projet de Dieu, me semble-t-il.
Merci. Et vous aviez, Père Guillaume, une idée pour illustrer un petit peu, l'espèce de balbutiement dans lequel on est dans l'Église en ce moment, de sortir d'un certain moule dans lequel les prêtres et les laïcs travaillaient d'une certaine façon ensemble, et puis voilà, de passer à autre chose. Et vous disiez que la controverse actuelle là, sur le motu proprio du pape était en fait une illustration de ce qui se passait, de cette espèce de sortie d'un monde pour arriver dans un autre. Vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît?
Alors, je rappelle encore une fois pour la troisième fois que ce que je dis là, je le dis en mon nom propre, c'est mon analyse, je pense pas avoir beaucoup de... c'est relativement personnel. Déjà, effectivement, moi je suis convaincu qu'il nous faut changer de modèle. Si vous voulez, pour ceux qui aiment l'informatique, il faut changer de logiciel. Logiciel que nous vivons par tradition, par habitude, par inertie en fait. On hérite, je vous ai dit, de quelque chose qui nous dépasse, et c'est tant mieux. Mais on voit bien aujourd'hui qu'en fait la roue elle est en train de s'arrêter. C'est pour ça que, voilà, maintenant, avant, on savait théoriquement, je pense, nous les prêtres, les pasteurs et tous ceux qui ont le souci de la pérennité de l'Église, on savait qu'il fallait faire quelque chose. Mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est la roue s'arrête. Donc maintenant, on est vraiment au pied du mur. Et on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas, etc. On le sait très bien. Donc, si vous voulez, ma conviction, qui est tout à fait, qui est peut-être tout à fait caricaturale, et peut-être que vous en serez très mécontent, mais il me semble que pendant des siècles, par l'histoire, par, encore une fois, les vicissitudes de notre vie humaine, hein, parce que ce que je suis en train de vous dire, ça s'incarne, vous voyez, on n'est pas des machines, on n'est pas des idées, donc notre histoire commune, elle se forge à partir de personnes, d'événements, etc., c'est l'histoire. Et donc, on hérite d'une façon de vivre en Église où, instinctivement, eh bien, vous avez, même si vous vous en défendez, hein, instinctivement, eh bien, vous avez le prêtre qui est celui qui sait, qui a l'autorité pour parler, qui a la science en fait, le sachant, comme dirait notre président, et puis vous avez les fidèles, et instinctivement un cran en dessous. Et d'ailleurs, soyez en passant, donc ça c'est tout l'enjeu du cléricalisme, hein, vous avez compris derrière ça, parce que il faut comprendre aussi que des fidèles sont très contents de ce modèle. Mon père, est-ce que vous pouvez me dire ce que je dois faire, etc., dans ma vie? À un moment, Jésus il dit, mais est-ce que je suis votre juge? Est-ce que je suis votre... pour les questions d'héritage? Voilà, il dit, c'est pas moi qui dirais ça, quoi. Et donc ça, c'est le modèle, en fait, dont on hérite et qui est encore... Enfin, franchement, qui est celui qu'on vit, il faut être clair. Moi, je pense que donc, le modèle qu'on est appelé à vivre, c'est justement de redonner à la compréhension à tous les fidèles qui ne sont pas des pasteurs... qu'ils ont autorité, que le baptême donne une autorité. Une autorité parce qu'à un moment, vous pouvez prophétiser, parce qu'à un moment, vous participez à la dignité de prêtre, de prophète et de roi dans l'Église. Et donc, du coup, vous avez une autorité naturelle, même si vous n'en êtes absolument pas convaincu, parce que la plupart du temps, on entend... Mais attendez, mais moi, vous l'avez dit, hein, moi, je peux... heureusement que le Père était là, parce que j'aurais jamais pu parler de l'enfer. C'est ce que vous avez dit. Vous voyez, Et on est très marqué. Instinctivement, Anne-Laure, vous m'avez dit, tiens, mon père, mettez-vous au milieu.
C'est parce que vous êtes le seul homme.
Mais vous voyez, on est marqué à la fois par nos façons de faire, notre histoire, etc. Et donc, le modèle dont je pense qu'il faut qu'il s'installe, c'est qu'en fait, les fidèles et les pasteurs doivent comprendre que nous avons autorité. Voilà. Nous sommes autorisés, vous êtes autorisés à parler au nom du Seigneur, vraiment. C'est pour ça que... Enfin, j'en reviendrai plus tard. Donc, et dans ce système où, en fait, le prêtre ne considère pas le fidèle comme celui qui sait un peu moins à la rigueur, ou qui, etc., mais comme celui qui partage la même mission, l'intention de l'Église, de Dieu, de sauver tous les hommes, eh bien, dans ce mystère de l'Église où on a autorité, eh bien, le Seigneur a choisi tel ou tel, et encore une fois, même ceux qui le vivent ne le savent pas pourquoi, eh bien, pour guider, pour discerner, en fait. Donc, j'allais dire, dans le modèle que j'imagine, être celui que Dieu veut, eh bien, le pasteur, il est pas là dans un rôle de supériorité, parce qu'en fait, je le dis comme ça, mais excusez-moi, mais on est des crottes de bique, enfin, il faut être clair. Quand on est prêtre, on connaît notre faiblesse. Vous nous renvoyez en permanence notre faiblesse, comme moi, peut-être comme prêtre, je vous renvoie la vôtre. Et on ne peut pas se cacher, je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, celui qui croit qu'il est fort, mais il le croit peut-être selon des critères mondains, mais devant Dieu, qui est fort ici? Qui est saint ici? Qui aime suffisamment le Seigneur? Qui se donne assez à lui? Franchement, levez la main. Ah, non, il se gratte la tête. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a établi que nous vivons réellement un état de faiblesse, et le prêtre, évidemment, comme tel, il reçoit, et c'est mystérieux, un rôle de gouvernement, un rôle pastoral, qui est celui que Dieu lui donne. Et c'est vrai, et là aussi on rejoint des réalités humaines, il faut être clair, on n'aime pas, quelquefois, il y en a certains qui détestent être dirigés, qui détestent être conduits, pour des tas de raisons. Parce qu'ils ont souffert de la relation avec leur père, parce que je sais pas quoi, n'importe quoi, des raisons même quelquefois psychologiques. Et donc ça crée aussi, bon, je ne suis pas en train de vous décrire une église où tout va bien. Hein. Je suis en train de vous décrire une église où en fait on n'est pas d'accord, à telle fois vous avez des bonnes idées, des fois on est mal luné, etc., etc. Mais n'empêche que le modèle général, eh bien, me semble-t-il, ce doit être que les fidèles doivent... redécouvrir la grâce immense, l'autorité immense que donne le baptême. Et je terminerai juste sur un petit exemple. C'est un très bel exemple de ça, me semble, la prière des frères. Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs sur nous, prêtres, à la fin de la messe avec l'évêque, etc. C'est-à-dire que quand vous découvrez que vous êtes capable de prier, et même de manière physique, j'allais dire, sur des pasteurs, bah, d'un seul coup, vous comprenez que vous avez une responsabilité aussi, que vous n'êtes pas en train d'aduler le gars que vous avez mis sur un piédestal, etc., parce que évidemment, monsieur le curé, ou je sais pas quoi, il est bien au-dessus, il a fait 7 ans de séminaire, et puis quelquefois, nous-mêmes, on est là en train de vous sortir des mots hébreux, des mots latins, des mots grecs, hein, on aime bien vous mettre un petit peu de trucs pour vous espanter un peu, mais dans la réalité, nous sommes des frères et des sœurs. Mais il y a certains, des frères, qui ont été choisis pour conduire les frères et les sœurs.
Oui, je rebondis simplement sur cette relation-là que nous avons avec notre curé, l'abbé Damien. Et d'ailleurs, je vous invite à postuler pour prendre le relais après de Famille de Frates, parce que nous, c'est vraiment quand même là qu'on a découvert à quel point le prêtre était un homme et le cadeau que c'est d'en prendre conscience. Et du coup, de prendre le temps aussi, ce qu'on n'avait jamais fait en paroisse par ailleurs, enfin pas à ce point-là, quoi, de vraiment le connaître dans les films qu'il aime regarder, dans s'asseoir autour d'une table basse pour prendre une bière ensemble, vraiment, et puis être là aussi quand c'est la troisième fois que le presbytère est forcé et que l'ordinateur disparaît. Enfin voilà, le prêtre, c'est un homme comme nous avant tout, et vraiment c'est un cadeau énorme qu'on a eu là, qu'on a pendant cette mission à la paroisse étudiante, de le découvrir et de voir aussi, grâce à l'abbé Damien aussi, qui nous le fait souvent remarquer, quoi, la beauté de ce que nous aussi, en tant que couple marié, qui avons reçu le sacrement de mariage, eh ben, on peut rayonner aussi, comme lui peut rayonner avec ce sacrement de l'ordination. Voilà, donc apprendre à se connaître et à mettre en valeur ce sacrement que les uns et les autres on a reçu pour rayonner, quoi, de l'amour de Dieu. Ouais.
Chacun met en valeur la vocation de l'autre, vous voulez dire. D'accord.
Je m'aperçois juste, excuse-moi, que je n'ai pas répondu à votre question, en fait.
J'allais vous le dire.
Je fais comme Georges Marchais.
Il nous reste quelques minutes, c'est bon, vous avez le temps.
C'est vrai. Bon, alors, la question que vous avez posée, c'est la question sur le motu proprio. Parce que j'ai eu une lecture qui est très personnelle, que j'ai rarement, j'ai jamais en fait vu quelqu'un qui partageait cette vision. D'abord, je suis convaincu que ce que le pape apporte quelquefois avec beaucoup de maladresse, j'ose le dire. Le pape a je pense que ce qui va rester de son pontificat, c'est que le pape a introduit la nécessité de changer de modèle. Il est en train de bouleverser plein de trucs, il secoue le cocotier, alors évidemment ça fait plaisir à personne quelquefois, mais si vous voulez, il est juste en train de comprendre que ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, je pense que le modèle sur lequel on a notre vie habituelle en Église n'est plus le bon. Et c'est pour ça qu'il se défie, en fait, je pense, de l'Europe, parce qu'il pense que l'Europe, c'est vraiment l'arbre mort, quoi. Et l'Europe ne produit. En fait, l'Europe, enfin, notre Église, regardez, on ne produit plus de chrétiens. Qu'est-ce que c'est que l'Église qui ne produit plus de chrétiens, franchement? Qu'est-ce que c'est que l'Église qui n'enfante plus? C'est ça, enfin, excusez-moi de mettre des mots, c'est brutal, hein, je pense, mais c'est ça la réalité. Si vous n'êtes pas capable, si nous ne sommes pas capables de garder les couples qui viennent se marier, et que 99% des couples qui viennent se marier, après des tas d'heures de sueur dans les paroisses parce qu'on a voulu bien les préparer, et que du jour au lendemain après le mariage, on ne les voit plus du tout, on ne sait pas garder les chrétiens. Donc, mais vous voyez, ça, c'est une réalité. Bon. Donc je pense que le pape a conscience de ça, et que ce qui va rester de son pontificat, un peu comme en une phrase ce qui reste, c'est il nous fait comprendre qu'on doit changer de modèle. Et je pense que le pape suivant nous aidera à le changer réellement. Ça, c'est mon avis tout à fait personnel. Donc, le motu proprio, vous en avez tous entendu parler, je pense, enfin, le dernier motu proprio qui, je ne sais pas comment le décrire, enfin, qui donne qui vient mettre, non pas un coup d'arrêt, mais qui vient vraiment restreindre les conditions d'exercice du rite selon de Saint-Pie V. On se dit, enfin, il faut se dire, mais pourquoi le pape fait ça? Pourquoi est-ce que le pape... Alors il y en a qui disent, ah ça y est, il rouvre la guerre liturgique, etc., etc. Derrière ça, alors attention, je vous rappelle encore une fois pour la quatrième fois que c'est mon analyse et que voilà, je n'engage que ma parole et que ce que je sens de l'affaire, que par ailleurs je vois de relativement loin. Vous connaissez le précepte lex orandi, lex credendi. La façon dont je prie m'indique la façon de ce que je dois croire, pour faire simple. La théologie, donc chaque rite, n'importe quel rite, même un rite familial de bénédicité, est porteur d'une culture et est porteur d'un sens, et pour l'Église catholique, d'une théologie. Si une théologie portée par un rite conduit à l'ancien modèle, le prêtre, il est là, et puis les fidèles, même si c'est pas dit comme ça, et même si c'est pas vécu comme ça, eh bien, en fait, voilà, il y a une hiérarchie, mais qui n'est pas une hiérarchie d'ordre du service. Eh bien, si c'est un ancien modèle, je comprends que le pape dise, écoutez, ce qui conduit à faire perpétuer des fidèles de l'Église catholique dans un modèle qui n'est plus le bon pour aujourd'hui, qui a eu toute sa noblesse, attention, parce que l'histoire, parce que etc., etc., mais qui n'est plus le modèle adapté aujourd'hui, eh bien, il faut aider les fidèles à comprendre qu'il faut changer le modèle. Parce que si les fidèles eux-mêmes continuent de développer un modèle qui n'est plus le bon, et je voulais dire, c'est tellement courant de voir des fidèles qui nous disent « Ah mon père, mais vous faites ci, vous êtes ça, vous... » Mais vraiment, vous savez, le piédestal, hein, c'est pas, généralement pas les prêtres qui se le mettent. Il y en a qui aiment bien quand même, il ne faut pas non plus se cacher. Mais la plupart du temps, c'est quand même les fidèles qui, vous voyez, ils essayent de vous poser à une place où vous n'êtes pas. Et finalement, à force, on finit par le croire. Nous, on finit par croire qu'on est fort, qu'on est intelligent, qu'on est je sais pas quoi, qu'on est bon. On oublie qu'on est des faibles, que la puissance de Dieu se déploie dans notre faiblesse. Et du coup, voilà, ma compréhension du motu proprio, c'est ce coup d'arrêt. Il n'est pas un coup d'arrêt à quelque chose qui est florissant. Regardez, on a beaucoup de familles, on a beaucoup de vie, etc. C'est juste que le pape, il est en train d'avoir une vision qui est une vision stratégique et non pas une vision tactique. C'est-à-dire qu'il est en train de voir l'ensemble et non pas des petits groupes. Et il est en train d'introduire dans l'Église la nécessité de changer. On a beaucoup entendu parler du document d'Aparecida. Allez le lire. En tout cas, les intuitions de ce document sont absolument étonnantes en termes de volonté d'évangéliser. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux en dire plus, mais voilà, mon interprétation, c'est vraiment il y a une prise de conscience qu'il y a un modèle qui doit changer. Et encore une fois, comme on peut faire dans les paroisses, peut-être que ça peut faire mal, peut-être que ça peut déstabiliser, peut-être que ça ne répond pas aux besoins de tel ou tel dans l'Église d'être pas coucouné, mais d'être... Il y a un besoin de sécurité, quoi. Voilà, donc peut-être que c'est insécurisant, mais c'est probable que pour un bien plus grand, c'est nécessaire.
Merci beaucoup. Oui, je crois que ça va nourrir notre réflexion. Juste avant qu'on passe aux questions, est-ce que Sabine ou Laure voulaient nous donner un ingrédient d'une bonne co-responsabilité, très rapidement?
Alors moi, je vais enchaîner, en fait. En fait, je crois que la question, alors prêtre et laïque, donc sur la question des laïcs et de quel laïc et comment on travaille avec des laïcs, comment nous laïcs on peut travailler avec les prêtres, être en fait des laïcs transformés qui peuvent participer à la mission conduite par leurs prêtres. Il y a la question de est-ce qu'on fait des choses, enfin, du passage du faire à l'être. On fait plein de choses. On fait du caté, on fait des kermesses, on fait plein de choses. Et en fait, on fait des missions. Mais en fait, le problème n'est pas de faire. Alors le faire est bien parce qu'il permet d'apprendre. On est des êtres de corps, donc de faire, ça permet de nourrir notre compréhension des choses et d'apprendre. Mais en fait, le vrai rôle, enfin, le vrai besoin qu'on a en tant que laïc, c'est vraiment d'être missionnaire ou de la conversion intérieure. C'est-à-dire, c'est pas une transformation extérieure, on va faire autre chose autrement, c'est qu'en fait on redevient autre chose, on reprend notre place, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Père, on reprend notre place de baptisé dans la vie de l'Église, et en fait c'est une transformation intérieure qu'on doit vivre, de faire de la mission, mais devenir missionnaire. Et en devenant missionnaire, on le sera partout, au travail, le jour où on sortira en mission porte à porte, quand on accueille quelqu'un à la porte de l'Église, et quand on fera, quel que soit le service qu'on rendra, on fera pas quelque chose, on sera quelque chose. Et c'est cette conversion intérieure qu'il faut mener pour nous, et je pense pour effectivement l'Église et les paroisses, c'est cette même transformation intérieure. Et ça, bon, il y a plein de choses pour faire, mais en fait, c'est vrai bien la prière ensemble, la louange qui va nous porter, la demande à l'Esprit Saint de nous aider, qui va nous aider à faire cette conversion pour nous et pour nos paroisses.
Merci.
Alors, moi, j'aurais deux ingrédients à donner. Le premier, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, de vraiment prendre le temps de se connaître, de s'aimer, et pour permettre derrière la correction fraternelle qui peut être très fructueuse pour tous. Voilà. Et le deuxième ingrédient aussi, ce serait pour les laïcs de ne pas se sentir propriétaires de leur mission. Voilà, le pasteur reste le berger, et nous, laïcs, on ne doit pas s'accrocher à notre mission, et on doit se laisser porter, qu'elle soit remise en question régulièrement. Je pense que c'est une très bonne chose aussi.
Les prêtres aussi sont en CDD, hein, de toute façon.
Sont en ?
En CDD.
Oui.
Congrès Mission 2021. Congrès Mission 2021. Congrès Mission 2021, table ronde.